avec Elgas.
L'Afrique par elle-même et dans les courants du monde continue de se dire et de s'écrire sur notre antenne. Merci à vous tous de nous accompagner tous les dimanches dans la découverte, la connaissance et la familiarisation avec cette histoire très riche. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine.
Le matin de bonheur, là, quand la vieille arrive, le fils en train de dormir, il te prend et il amène dans les toilettes. On enlève tes habits. Il y a les grands-parents, personnes seulement qui sont là. La vieille femme te prend et elle coupe. Tu pleurais. Ça fait très très mal. Ça fait mal. Tu entends les gens pleurer là-bas, là, c'est pas possible. Après, ils vont te mettre dans un baignoire avec de l'eau chaude pour qu'un peu de microbes se tuent. C'est pas bon. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec cette tradition.
Parlons aujourd'hui d'un sujet aussi délicat que douloureux, l'excision. Et parlons de son histoire. Quand les femmes ont-elles été excisées pour la première fois? Dans quelle région du monde? Qu'est-ce qui explique la longévité de la pratique de l'excision? Est-ce la religion qui la recommande ou l'impose? Ou est-ce alors la tradition? Mais alors, quelle tradition? Qu'est-ce qui explique qu'elle soit pratiquée si abondamment dans certaines régions et pas d'autres? Vous l'aurez compris, l'excision suscite d'innombrables questions. Et qui dit question, dit souvent approximation, fantasme et idées reçues. Démêler le vrai du faux et raconter les faits dans le temps, avec le souci de la précision et celui de la pédagogie, c'est l'objectif aujourd'hui d'Afrique, mémoire d'un continent, sujet épineux au cours des controverses, en particulier une récente en Gambie sur un projet de loi visant à abolir son interdiction. L'excision divise encore, malgré l'unanimité contre elle venant du corps médical et des avancées des féministes africaines en particulier. Je reçois aujourd'hui une historienne tunisienne pour revenir sur cette histoire de l'excision qui, je l'espère, éclairera le présent. Sophie Bessis est mon invitée. Sophie Bessis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, journaliste et féministe, trois casquettes qui ne seront pas de trop, je crois, pour aller à l'abordage de ce grand sujet des mondes africains et, disons-le, pas seulement. Je rappelle quelques titres de votre très riche production, « Femme du Maghreb, l'enjeu » en 92 chez Jean-Claude Lattès, ou encore « Les Arabes, les femmes et la liberté » chez Albin Michel en 2007. Je vous propose, chère Sophie Bessis, pour commencer, de faire une remontée dans l'histoire et la géographie. En l'état des connaissances, quand les femmes ont-elles été excisées pour la première fois et où peut-on le savoir?
Alors, je ne vais pas vous donner la date exacte au jour et à l'année près. Hein. Ça va être un petit peu difficile pour moi. En revanche, effectivement, on peut le savoir, c'est-à-dire en recoupant toutes les données historiques, archéologiques, anthropologiques, on a une idée relativement précise de l'apparition des mutilations génitales féminines. Je préfère ce terme à celui
des MGF, c'est d'ailleurs le terme le plus courant qu'on utilise maintenant.
Pour simplement pour une seule raison, c'est que l'excision n'est une des mutilations génitales féminines et qu'il y a d'autres types de mutilations.
Sur lesquelles on reviendra.
Sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Donc, en fait... on estime que les historiens estiment et les paléo-historiens estiment que l'excision, les mutilations génitales seraient apparues à peu près entre le deuxième et le premier millénaire avant Jésus-Christ, à peu près. Et en fait, voilà, donc c'est une pratique extrêmement ancienne et ce qu'il faut tout de suite pointer sur cette ancienneté, c'est que cette pratique est antérieure à l'apparition des trois grands monothéismes révélés, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Voilà. Et donc, ça fera l'objet, je pense, de notre réflexion.
Oui, ça c'est le premier point important, ces données chronologiques qui sont essentielles pour comprendre l'évolution. Et parlons maintenant géographie, après avoir fait ce point historique. On va sortir une carte, chère Sophie Bessis, et on va aller vers une région en particulier, c'est la vallée du Nil. Les continuités historiques semblent évidentes, et l'un des foyers les plus anciens de l'excision, quand on fait des recherches sur le sujet, c'est cette région de la Nubie, de l'Égypte, le Soudan également. Comment peut-on l'expliquer? Et comment s'est-il diffusé le long des rives de ce fleuve?
Alors, on insiste beaucoup sur la vallée du Nil, ce qui est tout à fait juste, hein, bien sûr, puisque certains paléohistoriens on aurait, parce que ça se discute parmi les historiens, certaines momies féminines qui auraient subi des mutilations génitales. Cependant, il faut remonter un peu plus haut, parce que ce n'est pas seulement la vallée du Nil qui est impactée par cette pratique, mais également la vallée du Niger. Et donc, il semblerait que l'excision ait été une pratique dans, à l'époque, du Sahara humide. Et à partir de l'assèchement du Sahara, eh bien, les populations sahariennes se sont dirigées vers, évidemment, l'eau. Et l'eau, c'était la vallée du Nil et la vallée du Niger, ces deux bassins versants. Et donc, ce sont dans ces deux bassins versants que la pratique des mutilations génitales féminines est la plus répandue et la plus massive. Vous avez parlé du Nil, effectivement, et donc qui va de son delta, de son embouchure, jusqu'à ses sources, c'est-à-dire l'Ouganda, l'Éthiopie, et même un peu plus au sud avec la Somalie, où la pratique de l'infibulation est absolument générale. Et puis, de l'autre côté, eh bien, l'excision. Alors, l'infibulation est beaucoup plus rare en Afrique de l'Ouest que...
Rappelons très vite pour nos auditeurs ce que c'est l'infibulation, par exemple. Alors, donnons-leur à voir la réalité de cette pratique.
L'excision, c'est soit la simple clitoridectomie, l'ablation du clitoris, soit l'ablation du clitoris et des petites lèvres de l'appareil génital externe de la femme. L'infibulation est une pratique beaucoup plus sévère, beaucoup plus cruelle, si je puis dire, puisque c'est l'ablation des petites lèvres, des grandes lèvres et la couture de l'orifice du vagin. Voilà.
Comment ces pratiques se diffusent-elles, ces mutilations? On a parlé donc de deux repères qui sont importants ici, vallée du Niger et vallée du Nil. Vous venez de revenir là-dessus. Le phénomène va se répandre à une grande vitesse.
On ne sait pas s'il se répand. Il ne s'agit pas de voir s'il se répand chronologiquement en parlant. Disons, ces populations occupent leur nouveau terrain d'habitation, si je puis dire, d'installation. Et donc, les mutilations génitales voyagent avec elles. Mais dans un laps de temps relativement rapide à l'échelle des temps historiques, évidemment. Et donc, il ne faut pas oublier la vallée du Niger. N'oublions pas que les femmes guinéennes, après tout, le Niger prend sa source dans le Fouta et que la Guinée a encore un taux de mutilation génitale de 98% des femmes. Bon, sans parler du Mali, où la proportion est pratiquement la même. Enfin, il y a au Burkina, elle a un petit peu diminué dans la mesure où c'est un des seuls hommes politiques africains, Sankara, qui a tenté... Dont on connaît la fibre féministe et qui a essayé de l'éliminer. Mais la plupart des dirigeants africains, il y a eu des interdictions à l'époque contemporaine. Il y a eu des interdictions qui n'ont jamais été respectées.
Continuons sur ces mutilations génitales et puis parlons justement d'un phénomène qui est un phénomène aussi important. C'est les arguments justement auxquels recourent les praticiens ou en tout cas ceux qui vont décider de ces pratiques sur les femmes. Ces arguments historiques, déjà les dates que vous avez données, les repères, pourquoi excisait-on tout simplement? Pour quelles raisons?
Écoutez, quand on regarde, il y a plusieurs types de raisons, bien sûr. N'oublions pas, et je crois qu'il faut insister là-dessus, que la pratique des mutilations fait partie intégrante de ces blessures infligées aux femmes par l'organisation patriarcale de la société. Alors même si ce sont les femmes qui excisent, hein, les exciseuses sont des femmes, mais vous savez que malheureusement, et dans toutes les civilisations, les femmes sont chargées de porter le signe identitaire de la société. Elles sont contraintes de porter ce signe identitaire et les pratiques qui vont avec ce signe identitaire. Donc, mais là, c'est l'organisation patriarcale de la société. D'ailleurs, vous avez deux ordres d'explications, en fait. Les explications d'ordre symbolique qui sont le fait que la séparation des sexes, la séparation totale des sexes est quelque chose d'extrêmement important pour l'ordre du monde, pour que le monde ne soit pas un chaos. Or, dans cette organisation symbolique de la séparation des sexes, le clitoris est assimilé à un petit pénis et le prépuce du pénis masculin est assimilé à un petit vagin. Et donc, dans l'ordre symbolique du monde, pour que les sexes soient bien séparés, il faut supprimer le clitoris chez la femme, supprimer le prépuce chez l'homme, ainsi la séparation des sexes est achevée, comme si la création divine avait quelque chose d'imparfait.
Autre argument, celui justement du plaisir des femmes.
Alors j'allais y venir, c'est l'argument le plus important. Oui. C'est qu'en fait, toutes les pratiques des mutilations génitales féminines. Et c'est pourquoi moi je suis très critique du rapprochement que certains font entre la circoncision masculine et les pratiques des mutilations génitales féminines, dans la mesure où la circoncision masculine n'enlève pas à l'homme son plaisir. Or, toutes les mutilations génitales féminines ont un but qui est ailleurs expressément, explicitement formulé dans toutes les sociétés où elles sont pratiquées, c'est l'interdiction de la jouissance féminine, la privation du plaisir féminin.
Sophie Bessis, il y a un élément aussi important, c'est le lien qui existerait entre l'excision et l'esclavage. Vous allez nous éclairer là-dessus. Plusieurs travaux montrent que les Arabes, lors de leurs incursions, par exemple, sur le continent, la pratique sur des captives et aurait aidé d'une certaine manière à diffuser la pratique. Que pensez-vous de cette hypothèse ?
Alors, n'oublions pas que dans l'Arabie pré-islamique, d'où viennent les Arabes,
oui,
et dans, disons, les régions arabes du Moyen-Orient, c'est-à-dire que le cœur de l'arabité, c'est la péninsule arabique, c'est la Syrie et l'Irak, en gros. À part le Yémen, aujourd'hui, où l'excision est assez générale, et quelques petites zones de l'Arabie limitrophes du Yémen, où l'excision est pratiquée, mais en gros, dans le monde arabe, l'excision n'existe pas. Bon, il ne faut pas oublier cela. Par exemple, dans ma région, le Maghreb, l'excision est quelque chose de totalement inconnu. Donc, les Arabes, qui effectivement ont été à la fois des commerçants, y compris des commerçants de chair humaine, on le sait bien, puisque la traite arabe a été une traite
oui,
extrêmement importante.
Oui, ça a été l'objet d'une émission d'Afrique Mémoire d'un continent, pilotée
donc,
par ma collègue Tanaï Traoré.
Peut, c'est tout à fait possible qu'effectivement, les Arabes aient contribué à perpétuer, ou plutôt à faire voyager cette coutume. Moi, je ne crois pas à cette explication fondamentale. Je ne crois pas du tout cette explication fondamentale. Ce qui est beaucoup plus fondamental, quand on regarde les coutumes sexuelles des Arabes, c'est plutôt l'émasculation des esclaves masculins.
Afrique, mémoire d'un continent.
Je reçois aujourd'hui Sophie Bessis, historienne et féministe tunisienne, ancienne rédactrice en chef de Jeune Afrique. Elle nous raconte l'histoire de l'excision et de sa pratique. Parlons plutôt des mutilations génitales féminines, les MGF, c'est le terme qu'il faut employer. Du bassin du Nil aux autres régions du continent, les MGF avancent et gagnent du terrain à la faveur du nomadisme et des routes commerciales. L'excision avance, ses justifications deviennent plus sophistiquées. Dans le temps colonial, elle devient presque aussi, d'une certaine manière, un certain marqueur entre les femmes indigènes sur lesquelles elle est pratiquée et les autres. Mais c'est aussi, surtout, un fait traditionnel majeur, répandu et béni au sommet des communautés. Avec toujours cette même volonté, vous l'avez rappelé, ce Fibessis, de maîtriser le plaisir des femmes, objet de crainte universelle. On retrouve ainsi dans la même veine des traces d'excision recommandées en Europe, par exemple, pour réfréner le désir sexuel, même si c'est marginal en Europe. Au 19e siècle, quelle a été la pratique
siècle, en fait, probablement d'ailleurs, ce qui n'est pas si intéressant, parce que l'Europe ne connaissait pas ces pratiques, et elle a découvert ces pratiques avec la colonisation d'ailleurs, oui, bien sûr. Hein. Quand les Européens ont colonisé, se sont partagés le gâteau africain, le gâteau subsaharien, entre autres. Et que donc là, un certain nombre de psychiatres, fort connus d'ailleurs, hein, se sont emparés de cela en disant que ce serait une pratique tout à fait... Alors là, c'est parfaitement clair, ça a été tout à fait marginal, il y a eu quelques centaines de cas d'excision, pas davantage, mais c'était une façon de guérir l'hystérie féminine, l'érotomanie, la nymphomanie féminine. C'est-à-dire, très explicitement, les femmes qui... avait un penchant pour le plaisir, si je puis dire, devait être excisé pour que ce penchant leur soit complètement
pour
éliminé.
Pour aborder d'ailleurs dans votre sens, on a quand même des phrases qui sont assez délirantes au sujet de la question. Par exemple, une mouture plutôt raciste. Le clitoris des femmes noires est très gros, d'où la nécessité de l'ablation. On l'a entendu, c'était justement une des pensées très répandues. Ou alors une variante qui est sexiste, un gros clitoris peut gêner l'homme, voire le blesser pendant un rapport. À cette échelle de l'histoire et à ces témoignages qu'on recueille justement dans les textes historiques, comment expliquer cette forme de crainte et ce délire sur le corps des femmes?
Alors vous savez, ça c'est une vieille histoire à laquelle vous devriez consacrer une émission tout entière. Mais effectivement, il y a énormément de textes, y compris de textes extrêmement anciens, les textes que l'on peut dire érotiques. Et vous savez que dans toutes les civilisations, vous avez une littérature érotique extrêmement importante. Et cette littérature érotique est fondée sur la crainte du plaisir, du désir et de la jouissance féminine. C'est-à-dire que c'est un fantasme masculin extrêmement répandu et où l'on a peur du vagin avaleur de pénis, en réalité. Hein, il y a tous les mythes des vagins dentés, par exemple. Bon. Et donc, en fait, un des fantasmes masculins dans cette littérature les plus répandus, c'est le sexe féminin peut avaler le pénis, en fait, et alors priver, en fait, l'homme de sa virilité. Bien entendu. Et donc, la version, si je puis mettre des guillemets, sage de cette affaire, c'est on enlève le clitoris qui peut gêner, effectivement, et les petites lèvres, et parfois les grandes lèvres, qui peut gêner la pénétration masculine et qui peut faire du mal à l'homme.
Essayons, chère Sophie Bessis, maintenant de donner peut-être quelques chiffres, peut-être qu'ils sont parfois incomplets et qui méritent parfois d'être mis à jour, mais quel est l'étendue, justement, la prégnance d'un phénomène comme l'excision dans beaucoup de pays. Prenons, par exemple, les pays du bassin du Nil ou d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez quelques données là-dessus?
Oui, il y a des données. Je vous disais tout à l'heure que, par exemple, dans des pays comme la Guinée ou comme le Mali, c'est plus de 95% des femmes. En revanche, il y a d'autres pays où certaines populations ne pratiquent pas traditionnellement l'excision. C'est le cas du Sénégal, par exemple, où on estime, et c'est le cas du Niger également. Donc, dans des pays comme le Sénégal ou le Niger, d'après les chiffres, l'excision concernerait 30 à 40% des femmes, à peu près. Et donc, elle serait importante, mais pas massive. Dans un pays comme le Burkina, où elle est extrêmement répandue, elle aurait diminué du fait des politiques publiques. Et donc, elle se situerait maintenant à 65, 70%, on hésite. Je donne des ordres de grandeur, hein. Je ne donne pas des chiffres exacts. Si on va vers le Nil, alors là, il est très intéressant de constater que l'excision transcende les religions. Vous avez environ 10% de la population égyptienne qui est chrétienne copte. Vous avez environ la moitié de la population éthiopienne qui est chrétienne copte, ce qui n'empêche pas la prévalence massive de l'excision. Et ça, c'est très important. Et ce qui montre bien que l'excision n'est pas liée à une religion particulière. Oui. Et donc, en Égypte, on estime que 85% à peu près, hein, 80-85%, il y a eu des chiffres récents, des populations féminines sont excisées. Au Soudan, du Nord et du Sud, puisqu'il y a deux Soudans maintenant, hein, en Éthiopie, en Ouganda, en Somalie, c'est une pratique massive.
Si l'excision a proliféré, comme on l'a vu, grâce à la tradition, une tradition qui est têtue et qui reste, demeure un grand débat quant à l'origine de la pratique. Deux hadiths, par exemple, de cette jurisprudence musulmane attribuée au prophète Mohammed, dont il reste à authentifier unanimement l'origine, semble accréditer l'idée d'un lien possible avec la religion musulmane et ses recommandations. Mais s'il existe des pays musulmans où l'excision se pratique, dans d'autres pays musulmans également, il n'y a point d'excision. On va faire ici, chère Sophie Bessis, une courte pause et après on va aller au cœur de cette vive controverse ou querelle, ou en tout cas idée tout à fait incomplète. Mais un point complet sur l'actualité déjà sur RFI, à tout de suite.
Afrique, mémoire d'un continent.
Nous interrogeons aujourd'hui dans votre magazine l'histoire, les religions, les traditions négro-africaines en particulier sur la question de l'excision, des mutilations génitales féminines. Je reçois pour ce faire l'historienne et féministe tunisienne Sophie Bessis qui a consacré de nombreux livres au combat des femmes pour leurs droits. Ouvrons ici, chère Sophie Bessis, un chapitre important de notre discussion et allons-y sans détour, j'ai envie de dire. L'islam recommande-t-il ou impose-t-il l'excision aux femmes? Sur quels textes, s'ils existent, se fonde-t-on?
L'islam n'impose absolument pas l'excision aux femmes. Les choses sont extrêmement claires. Si l'on prend le texte sacré par excellence des musulmans, qui est le Coran, vous savez, il y a un théologien tunisien, Mohamed Talbi, qui avait cette phrase très importante, « Seul le Coran oblige ». Donc, dans le Coran, il n'y a aucune trace.
Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Aucune ambiguïté là-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas de trace de la circoncision non plus. Alors que, par exemple, dans le judaïsme, elle est une obligation divine. C'est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Parce qu'il n'y a rien de cela dans l'islam. Il y a 3 hadiths, et mes souvenirs sont bons, dont l'authenticité n'est pas prouvée. C'est-à-dire que la chaîne de transmission est sujette.
On va rappeler pour peut-être nos
alors,
auditeurs.
Alors, le plus important.
Le hadith, c'est quoi, par
alors,
exemple?
Le hadith, c'est les dits du prophète, parce qu'il a beaucoup parlé dans sa vie, dont une partie a une chaîne de transmission tout à fait attestée, donc qui serait des dits véridiques du prophète, et une partie, c'est-à-dire que si on prend tous les hadiths, le prophète, du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, n'aurait pas arrêté de parler. Voilà, sans dormir, sans... voilà. Mais il y a des hadiths attestés. Et donc, le principal hadith qui a trait à l'excision, le prophète aurait assisté à une excision, aurait rencontré une scène d'excision, et aurait dit, ne coupez pas trop. Voilà. Donc... doucement, ne coupez pas trop. C'est tout. Il n'y a rien
d'autre.
Et
ce n'est pas authentifié, vous dites.
Et ce n'est pas authentifié. Et de toute façon, ce qui montre bien qu'il n'a pas recommandé l'excision et que si l'on prend le sens et pas la lettre, il était plutôt contre en disant « Attention, faites attention tout de même. Hein. » Donc, il n'est impossible de justifier la pratique de l'excision par une injonction religieuse quelle qu'elle soit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et je voudrais insister là-dessus.
Bien sûr.
L'excision, comme bien d'autres pratiques, est une pratique qui relève de la coutume et qui ne relève pas de l'injonction religieuse musulmane pour ce qui est des pays à majorité musulmane. Seulement, le problème, c'est que quand la tradition sert l'hégémonie patriarcale, ce qui est le cas là, eh bien, les docteurs de la coutume appellent la coutume religion. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a appelé la coutume religion pour parer, disons, la coutume d'une légitimité divine, en réalité. Mais cette légitimité n'existe pas. Et d'ailleurs, je termine par là, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe encore, mais du temps où je m'occupais de plus près de ces questions-là, une ONG au Sénégal qui luttait contre l'excision et qui collaborait avec des imams, lesquels imams disaient en chair à leurs fidèles « L'excision n'est pas un commandement religieux. N'invoquez pas la religion, ce n'est pas un commandement religieux. » Et donc, c'était très intéressant de prendre les imams pour lutter contre l'excision.
Ça semble clair, net, sans aucune forme d'ambiguïté. Et pourtant, le fait demeure, et surtout dans beaucoup de pays musulmans, citons-en quelques-uns qui ne pratiquent pas l'excision. La Palestine, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les pays
aucun
du Maghreb.
Aucun pays, pratiquement aucun.
A contrario, dans l'un des plus grands pays musulmans du monde, qui ne se trouve ni dans la vallée du Niger, ni dans la vallée du Nil, l'Indonésie, cette pratique est présente, ou encore l'Égypte, qui est, jusqu'à la preuve du contraire, un pays musulman. Comment expliquez-vous, justement, cette forme de persistance alors que les démentis sur la religion sont sans ambages?
Je vous disais tout à l'heure qu'en Égypte, l'excision qui serait, selon certaines sources, le pays de naissance de l'excision, puisque l'excision, on l'appelle parfois la circoncision pharaonique. Vous voyez la lourdeur, disons, de l'héritage. Je disais simplement, et donc c'est pas l'islam, que les femmes coptes étaient également excisées. Les coptes représentent entre 8 et 10% à peu près de la population égyptienne, c'est-à-dire sont une dizaine de millions en Égypte. Voilà. Donc vous voyez bien que ça transcende une appartenance religieuse particulière. Alors l'Indonésie, attention, il ne faut pas induire notre auditoire en erreur, c'est une pratique très très minoritaire en Indonésie. Il y a des populations indonésiennes. Vous savez que l'Indonésie est un pays très très hétérogène au point de vue de ses populations, d'abord très étendu, avec des, c'est un archipel très étendu avec des traditions très hétérogènes, et donc il y a effectivement, dans certaines îles, on pratique ces mutilations. Il semblerait là encore que ce ne soit pas une pratique qui ait été importée avec l'islam. Vous savez que l'islam est arrivé en Indonésie autour du XVIIe siècle à peu près, hein. C'est une arrivée tardive. En tout cas, il a été majoritaire à partir du XVIIe siècle. Mais il semblerait que ce soit antérieur.
J'ai une autre question, chère Sophie Bessy. Cette pratique, comme on l'a vu donc, antérieure aux religions monothéistes, l'islam, le catholicisme et le judaïsme. Mais on voit quand même qu'il persiste sous le manteau justement de cette coutume et de cette tradition. Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, peut-être que je m'avance trop, je parle sous votre contrôle, que les religions monothéistes l'ont parfois toléré, entre guillemets?
C'est certain, l'ont toléré, c'est-à-dire que les religions monothéistes, prenons surtout, parce que le judaïsme est une religion tout à fait minoritaire dans le monde, hein, c'est pas. Et puis concrètement, même s'il y a des allusions claires à l'excision dans le texte biblique, mais les juifs n'ont jamais pratiqué les mutilations génitales. Et puis bon, c'est une population à l'échelle de la planète totalement marginale. Il y a à peu près 15 à 16 millions de juifs sur la planète, vous savez que c'est très peu. En revanche, les musulmans et les chrétiens, ça fait à peu près la moitié de l'humanité, donc ça devient quand même beaucoup plus sérieux, hein. Il est évident que ces deux grandes religions ont cohabité avec les traditions et ne se sont heurtées aux traditions que quand elles en avaient besoin, quand ça leur convenait. Or, la tradition de la domination patriarcale entrait dans leur logiciel, si je puis dire, à ces deux religions. Donc il n'y avait pas de raison pour qu'elles se battent contre les mutilations génitales féminines.
Et ils sont nombreux à avoir chanté pour dénoncer l'excision dans le continent africain. De grandes voix notamment, parmi lesquelles l'enfant de Sigira et ténor de l'orchestre national Bembeya Jazz, c'est Sekouba Bambino.
Fola dem faru ayala me nya fola dem faru ayala me kanim fonte naru ayala me musuminu ye dinna yi kala ya boloka timmatiru anu fala dinna di la Soro falu demosola sunna koni dem falu kini soni made excision c'est pas bon mutilation c'est pas bon atakura na kono te jikita buro tenalu kini soni made nya fala de
Le prodige guinéen Sekouba Bambino, meilleur chanteur du pays en 1979. Revenons aux mutilations génitales féminines, Sophie Bessis. Comment expliquez-vous, malgré la clarté des textes, l'absence formelle de prescription dans les trois religions monothéistes, que l'excision persiste encore et parfois même semble avoir une actualité, sinon gagner du terrain? Je pose bien sûr cette question à l'historienne, mais surtout à la féministe que vous êtes.
C'est une vraie question, effectivement. Pourquoi l'excision est-elle aussi prégnante? Pourquoi n'a-t-elle diminué que marginalement, en définitive? Pourquoi cette pratique est-elle aussi solide? Et je crois que l'excision, la mutilation du sexe féminin externe, parce que appelons-la comme ça, est un marqueur central de la domination masculine. Et que dans ces temps, me semble-t-il, d'abord, il ne faut pas oublier que dans les régions où celle-ci s'exerce, c'est-à-dire les deux vallées dont nous avons parlé, ce sont des populations souvent très conservatrices, ne l'oublions pas. Je n'en veux pour preuve, dans un autre domaine, que le fait que le nouveau président du Sénégal se soit présenté à son peuple entouré de ses deux épouses, donc il légitimait profondément la polygamie, qui est un autre marqueur de la domination masculine. Il faut tout de même pas l'oublier. Donc vous voyez à quel point on assiste là à une régression, parce qu'aucun président sénégalais depuis l'indépendance n'avait été polygame. Donc c'est le premier, et il l'est avec fierté. Donc ça, c'est quelque chose. Donc vous voyez à quel point, disons, le conservatisme masculin est quelque chose d'important. Et donc ce marqueur central, je crois, est une ligne de défense de l'hégémonie patriarcale contre les avancées possibles, probablement inéluctables, des droits des femmes.
Afrique, mémoire d'un continent.
On l'a vu, la pratique de l'excision ou encore des mutilations génitales féminines est antérieure aux trois religions monothéistes. Depuis sa naissance, plus ou moins située dans les vallées du Nil et du Niger, l'excision est pratiquée dans le monde pour diverses raisons. La tradition, une religion abusivement invoquée en Afrique et dans certains pays musulmans, ou bien en Europe comme traitement expérimental à l'encontre des femmes au désir sexuel ou au plaisir sexuel trop marqué, traité d'hystérique. Nombreuses donc sont les raisons qu'on invoque pour justifier cette pratique. Si les féministes ont fait reculer globalement le phénomène sans tout à fait réussir à l'éradiquer, il reste encore à comprendre les mécaniques qui peuvent favoriser sa perpétuation. On vient d'avoir une à travers ce marqueur de la domination des hommes, comme vous venez de le dire, chère Sophie Bessis. Après cette plongée dans l'histoire, j'aimerais qu'on évoque un tout petit peu le présent maintenant. Je ne peux manquer de vous faire réagir sur les événements récents, sur un projet de loi en Gambie, par exemple, où un texte a été proposé pour abroger l'interdiction de l'excision dans le pays qui date de 2015. Vous qui avez connu plusieurs générations de féministes, à qui vous avez d'ailleurs consacré des livres, qu'est-ce que cela vous inspire, que cela soit assumé aussi publiquement et qu'on en vienne à avoir des projets de loi pour revenir en arrière?
C'est consternant. Je rappelle que plusieurs pays, dans les années 1960-1970, avaient interdit les mutilations génitales féminines, même plus tard, puisque Alpha Condé en Guinée avait interdit cette pratique. Mais Siad Barré en Somalie, en Égypte, c'est très compliqué, mais ça a été interdit à plusieurs reprises, sans que ça soit vraiment interdit, tout en étant vraiment interdit. Bon, il y a des hésitations comme ça, mais il y a eu une volée d'interdiction qui est quand même importante. Je précise que dans certains pays, comme le Mali par exemple, où nous avons eu des chefs d'État progressistes, ces chefs d'État progressistes n'ont jamais dit un mot sur les mutilations génitales féminines. Trop dangereux. Il fallait se concilier quand même les milieux, et là vous voyez la confusion, les milieux religieux également, bien sûr. Les milieux traditionnels, les chefferies traditionnelles et les milieux religieux. Je dis c'est consternant, parce que cela montre, et cela va dans le sens de ce que je vous disais il y a un instant, c'est-à-dire que si un parlement et les députés masculins d'un parlement veulent revenir sur cette interdiction et donc rendre de nouveau légales les mutilations génitales féminines, vous voyez la force à la fois de l'hégémonie patriarcale, puisque non, c'est très bien, il faut que ça soit légal, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça soit légal, c'est-à-dire il faut que ça soit pratiqué, bien entendu. Et également, y a-t-il une panique du masculin derrière, en disant non, nous devons nous accrocher à cette tradition parce que nous ne devons pas perdre notre pouvoir?
Oui, il y a un autre aussi aspect sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est que quand on parle de ces questions, on a vu à la lumière justement de l'histoire, j'aimerais qu'on évoque justement les luttes aujourd'hui féministes. Aujourd'hui, vous qui avez le privilège de regarder ça presque sur un demi-siècle, aujourd'hui, quelles sont les luttes à encore essayer de mettre en place pour essayer de contrer? Est-ce qu'il y a de l'espoir, cher Sophie Bessis?
Il y en a toujours de l'espoir, il ne faut pas le perdre. Moi, je pense qu'il y a eu... Bon, quand la question de l'excision est apparue, parce que pendant très longtemps, on n'en parlait pas. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement intéressant. Les mémoires d'Awa Keïta, grande figure malienne. Oui. Et j'avais relu très attentivement son livre, puisque j'avais fait la préface de son édition de poche à Présence africaine. Awa Keïta a été une sage-femme pendant toute sa vie. Toute sa vie, elle a accouché des femmes maliennes. Eh bien, dans les 400 pages ou plus de son livre, le mot excision n'apparaît même pas.
Pourquoi ?
C'est un tabou. On ne parle pas de cela. Et donc, c'est extraordinaire de la part de sa femme qui, par ailleurs, était profondément progressiste à Awa Keïta et qui s'est battue aussi pour les droits des femmes. Hein. Mais il y a le tabou de l'excision. Vous savez, dans nos pays, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord, sous des modalités différentes, eh bien, les injonctions communautaires, vu ce que j'appellerais la dictature du groupe, de la communauté, on n'ose pas s'en séparer. Et très souvent, les combattants et les combattantes des droits humains ont eu beaucoup de mal à choisir entre la liberté et l'identité. Et très souvent, on sacrifier la liberté à l'appartenance à la logique du groupe. Et je crois que c'est cela qui a fait que, en fait, la lutte contre l'excision a été tardive et que les premières féministes, certaines ont beaucoup de courage, hein, énormément de courage, elles ont d'ailleurs été insultées comme pas permis, mais beaucoup de femmes qui défendaient les droits des femmes n'osaient pas aborder cette question-là.
Et cette chape de plomb, elle existe encore aujourd'hui ?
Oui, elle existe encore aujourd'hui.
Merci infiniment, chère Sophie Bessis, pour vos éclairages.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes historienne et féministe tunisienne. Vous avez été rédactrice en chef de Jeune Afrique. Merci pour à la fois ce regard historique très très profond et ce regard aussi très très engagé. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Égypte, plus de 80%, Soudan, près de 80%, Somalie, près de 90%, Djibouti, près de 90%, Mali, plus de 80%, Sierra Leone, plus de 90%, Guinée, plus de 96%. Voilà les taux d'excision estimés dans quelques pays d'Afrique. Tous dépassent, selon l'UNICEF, les 80%. L'histoire que nous venons de revisiter en compagnie de Sophie Bessis dit toute l'histoire d'une pratique qui perdure. Elle continue aujourd'hui encore à concerner plusieurs millions de femmes dans le monde et particulièrement en Afrique. Merci à Sophie Bessis pour son engagement à faire connaître la vraie histoire et les vraies causes de ce phénomène pour nous aider à sortir de cette persistante éclipse dont l'ombre se jette encore aujourd'hui sur les femmes africaines et leur histoire. Une trajectoire qu'il est grand temps de se réapproprier. C'est la fin de Afrique, mémoire d'un continent. Vous retrouverez l'émission en podcast, bien sûr, sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Merci à toute mon équipe, Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fatraoré à la réalisation. La semaine prochaine, aux commandes à ce micro, Penaï Traoré.